Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Sous nos pieds, un monde invisible s'active, fait d'alliances et de luttes, des colonies de champignons indispensables à la survie de nos écosystèmes forestiers. À l'image du microbiote intestinal des hommes, il constitue l'organe de survie de nos forêts et pourrait bien être leur assurance-vie face au réchauffement climatique qui bouleverse le monde. Un super-organisme en interaction permanente avec la flore qui n'est, au fond, jamais seul. Voyage au-delà de l'invisible avec Francis Martin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des spécialistes mondiaux de la forêt, directeur de recherche à l'INRA Nancy, au laboratoire d'excellence Arbre, et auteur du livre « Sous la forêt » paru chez Humaine Science. Et en seconde partie d'émission, deux moments à ne pas rater, l'expertise de la spécialiste en pharmacologie et en nutrition Anne-Laure Denant à propos de l'additif alimentaire E171 qui fait parler de lui à nouveau, et puis la rencontre avec l'artiste de street art Arthur Bordalo en ce moment à Paris pour son exposition à Corps de Paris, exposition présentée à compter du 26 janvier à la Madgott Galerie. Merci à toute l'équipe qui m'entoure dans cette émission préparée toujours avec Anaï Morales, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée par Alexandra Malka avec à la technique aujourd'hui Pierrick Monsigny, et l'émission en partenariat bien sûr avec la rédaction des pages Planète Science du journal Le Monde. Bonjour à tous et bienvenue.
On fait de la valorisation forestière avec des arbres de qualité en mettant 300 à 400 arbres hectares au lieu de 1200 que demande l'administration, mais on crée des couloirs écologiques pour les animaux en même temps. Dans quelques années, donc, les arbres qu'on aura plantés qui seront moindres au départ seront de meilleure qualité et on aura une production qui sera bien meilleure. Donc toute la filière bois est gagnante avec ce principe de plantation.
Pour booster ces jeunes chênes, leurs racines ont bénéficié d'un bain avant de se retrouver en terre. C'est Daniel Soupe, pépiniériste, qui a mis au point la potion magique. À base de bactéries et de champignons, les mycorhizes.
Les bactéries ont une fonction nourricière pour l'arbre. Tandis que les mycorhizes, elles vont apporter les oligoéléments à l'arbre. On a tous besoin d'oligoéléments, et les arbres particulièrement. Et les mycorhizes ont encore une autre fonction, c'est d'apporter l'eau, l'humidité à l'arbre dans les périodes de sécheresse.
Francis Martin, voici un reportage diffusé donc sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. C'était le 6 février 2017, donc dans l'Ain, cette première forêt cultivée en biodynamie en Europe. C'est l'exemple d'une forêt durable et donc de l'association avec les champignons.
Oui, en fait, ce dont on parle là, ce que les scientifiques appellent la mycorhisation contrôlée, c'est-à-dire l'apport sur le système racinaire des arbres d'un cortège de champignons symbiotiques, bénéfiques, sélectionnés. En fait, ces travaux ont commencé il y a une bonne quarantaine d'années déjà, à l'INRA de Nancy, où des collègues ont sélectionné un champignon particulièrement efficace qu'on appelle le lacaire bicolore. Associé au sapin de Douglas, ce champignon stimule de façon considérable la croissance des jeunes semis de sapin de Douglas. Et ça a été utilisé pendant plusieurs années, c'est encore utilisé aujourd'hui par l'Office national des forêts pour replanter les sapins de Douglas dans les zones de reforestation du Massif central. Donc oui, le champignon apporte plus que l'eau. Il apporte les éléments nutritifs indispensables à la croissance de la plante, à la croissance de l'arbre.
Mais des sapins de Douglas qui sont venus remplacer les épicéas, et aujourd'hui on dénonce hein, quand même ces fameux Douglas, notamment dans le Limousin ou dans le Morvan, hein, si je ne m'abuse.
Absolument. Parce qu'en fait, à chaque arbre est associé à un cortège de champignons bénéfiques, et sous les épicéas, on trouvait des cèpes, et quand on remplace l'épicéa par le sapin de Douglas, eh bien les cèpes peuvent être amenés à disparaître.
Alors, sans les champignons, Francis Martin, l'homme n'aurait jamais existé. Et aujourd'hui, sans eux, face au réchauffement climatique, les forêts ne seraient pas à même de s'adapter. On peut dire ça.
Les forêts n'existeraient pas. Alors, vous parlez à un mycorhizologue, c'est-à-dire un spécialiste des champignons mycorhiziens. Évidemment, j'ai ce discours qui précise, qui mentionne que les arbres ont besoin des champignons. Avec ou sans changement climatique, les arbres ne sont pas capables de s'alimenter suffisamment pour croître s'ils ne sont pas associés à ces champignons. Et ça, c'est une histoire très ancienne. Ça remonte à 450 millions d'années. Quand les premières plantes ont colonisé les continents, les terres émergées, elles n'avaient pas de racines, ces plantes primitives, et pas de feuilles. Et le seul moyen pour elle pour absorber les éléments nutritifs de ces sols extrêmement primitifs, très pauvres, ça a été de s'associer à des champignons symbiotiques qui, en fait, se substituent ou remplaçaient les racines qui n'existaient pas. Et il a fallu attendre 50 millions d'années pour que les racines apparaissent, toujours associées à ces champignons. Et c'est il y a 300 millions d'années que les premières forêts sont apparues, toujours associées aux champignons. Donc en fait, cette alliance entre champignons et arbres a toujours existé chez les plantes terrestres.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'écosystème terrestre équilibré sans les champignons?
Quasiment pas. Les seuls écosystèmes que l'on connaît où il n'y a pas de champignons symbiotiques, ce sont les plantes, ce sont les marais, où les plantes vivent les pieds dans l'eau, et donc là, elles n'ont aucune difficulté à s'alimenter.
Et on a retrouvé très peu de fossiles quand même de ces champignons, même s'ils ont toujours été là et qu'on leur doit la vie des arbres, on peut le
c'est
dire.
C'est un problème pour nous, qui essayons de reconstruire le scénario évolutif de ces champignons. On a des outils moléculaires qui nous permettent d'aborder ces aspects, mais c'est quand même beaucoup plus solide, ces scénarios évolutifs sont beaucoup plus solides quand on a des fossiles. Et on dispose de beaucoup de fossiles de plantes, très peu de fossiles de champignons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les champignons sont constitués à 98% d'eau. Ce sont des tissus fragiles, il n'y a pas de bois, il n'y a pas d'os. Donc quand ils meurent, ils sont dévorés par les insectes, les bactéries, et il n'y a pas de traces. Donc on connaît en tout et pour tout une douzaine de fossiles de champignons où on reconnaît le pied et le chapeau. Et souvent ils sont piégés dans l'ambre.
Et oui, souvent c'est dans l'ambre qu'on retrouve ces traces-là, enfin, heureusement, les archéologues.
On n'aurait pas d'idée sur la forme de ces champignons. Non, il y a récemment des collègues brésiliens ont retrouvé toutefois un fossile de champignon qui a dû disparaître, mourir il y a 50 millions d'années, qui est tombé dans la rivière, emporté dans le delta de cette rivière, piégé dans les sédiments, et à ce moment-là, il a été fossilisé. Et c'est incroyable, on a l'impression de retrouver un champignon de Paris. On voit bien le chapeau, on voit bien le pied, on voit bien les lamelles fines sous le chapeau. Donc les champignons qui poussaient dans les prairies parcourues par les dinosaures il y a 50 millions d'années ressemblaient fortement à ceux qu'on peut ramasser dans les prairies aujourd'hui.
Alors, dans votre livre, vous nous parlez de 3 millions de champignons que l'on retrouve aujourd'hui sur l'ensemble de la planète. Alors,
on a répertorié 100 000 espèces de champignons à qui on a donné un nom. Donc, ils sont répertoriés, inventoriés. On pense qu'il y a au moins 1 million d'espèces, probablement 5 millions d'espèces. Pourquoi ? Parce qu'on dispose aujourd'hui d'outils moléculaires très proches des outils que la police scientifique utilise. On séquence des fragments d'ADN et à chaque organisme, on peut associer une étiquette. Et quand on extrait l'ADN du sol, quand on prélève un gramme de sol dans une forêt, qu'on séquence l'ADN qui s'y trouve, on identifie au moins 2 à 3 000 espèces par forêt. Et quand on extrapole à toutes les forêts, à toutes les prairies, à tous les écosystèmes terrestres, on atteint des chiffres de l'ordre de 3 millions d'espèces de champignons qui restent à découvrir.
Alors ces arbres, Francis Martin, des êtres vivants avec lesquels nous partageons la planète, on sent un véritable engouement aujourd'hui et depuis peut-être ces deux dernières années dans le public. On pense bien sûr au livre de Peter Wohlleben, ce forestier allemand. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on leur attribue des capacités, vous-même, quelles capacités attribuez-vous aux arbres sans excès avec votre regard de scientifique justement?
Alors, peut-être pourquoi nos concitoyens s'intéressent de plus en plus aux arbres. Je pense qu'on est tous conscients, on a tous pris conscience de la crise climatique, du changement climatique. Même les hommes politiques maintenant en sont convaincus. Donc en fait, on a envie de préserver cette diversité, cette biodiversité. On veut préserver évidemment les baleines franches, on veut préserver les éléphants. Mais on commence à réaliser que sur notre planète, il y a des organismes qui sont aussi intéressants que ces animaux emblématiques et iconiques. Ce sont les plantes, ce sont les arbres, ce sont les champignons. Donc je pense que ça, c'est fondamental. Si on veut progresser dans ce domaine-là, il faut que cette prise de conscience se perpétue. Alors les arbres sont, vous l'avez dit, 3000 milliards d'arbres sur notre planète. Donc c'est une planète verte. Elle est bleue, mais elle est aussi verte. Ils sont plus nombreux que nous. Ils sont plus anciens. On a dit, ça fait au moins 300 millions d'années qu'ils sont présents sur notre planète. Mais on ne les considère pas comme des organismes, comme des entités sensibles. Et pourtant, leur fonctionnement biologique, les cellules qui constituent un arbre, fonctionnent exactement comme les cellules humaines. Les tissus constitués par les arbres, quand ils forment leurs racines, leurs tiges, leurs feuilles, sont aussi sophistiqués que les tissus humains ou les organes humains. Donc il n'y a aucune raison de les ignorer et de les mépriser. Ils ont des sens également, ils voient, ils sentent, ils ont un toucher, ils sont capables de dialoguer. Alors, ils n'ont pas de cerveau dans les racines, contrairement à ce que disent certains auteurs. Mais ce sont des organismes sensibles qu'il faut absolument respecter.
3 000 milliards sur la planète, 10 milliards qui disparaissent chaque année. Il faut avoir ça aussi à l'esprit. Et juste pour donner quelques chiffres, pour être précis, puisque vous parlez aussi de cette forêt qui a une fonction écologique, économique et sociale. Voilà, en France, 137 espèces d'arbres. En Guyane française, 1700. Mais on répertorie plus de 60 000 espèces d'arbres dans le monde. Et bien sûr, ce sont les forêts tropicales qui sont les plus fournies en espèces. Ces forêts, donc, d'une manière générale, ce sont des lieux d'interaction multiples et notamment avec ces champignons. Alors dites-nous concrètement, de quoi parlons-nous? Ces champignons, quels sont-ils? Combien sont-ils? Enfin, qu'on comprenne vraiment la mesure de ce que c'est concrètement, parce que c'est un monde invisible.
Oui, je vais vous répondre, mais avant, pour rester sur cette forêt, j'aimerais corriger une erreur qui circule encore trop souvent. La forêt française et la forêt européenne, elle est en bonne santé. Et la superficie, la surface boisée en France, est là quasiment doublée en 30 ans. Grâce au changement climatique, en fait, grâce à la suite à l'augmentation de la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère, les plantes se comportent comme dans une serre. Elles assimilent beaucoup plus de gaz carbonique par le biais de la photosynthèse, elles accumulent plus de sucre, elles fabriquent plus de bois. Le territoire national couvert par la forêt s'accroît en permanence. En plus, l'agriculture a abandonné de nombreuses régions en France. Cette fameuse diagonale du vide, eh bien, les arbres, vaillamment, la repeuplent. Donc, la forêt française, c'est pas la forêt amazonienne, qui elle est en danger, l'Indonésie.
Oui, bien sûr.
Donc ça, je voulais quand même.
Et quand on parle des 10 milliards d'arbres qui disparaissent, je ne pointais pas la France, évidemment. Ah. Et donc ça veut dire que vous travaillez concrètement avec l'ONF, par exemple?
Ah oui, bien sûr. Ce laboratoire d'excellence arbres, c'est un consortium de 260 scientifiques avec plusieurs partenaires, l'INRA, l'Université de Lorraine, l'École forestière AgroParisTech, mais également avec l'Office national des forêts et la forêt, l'Association des forestiers privés. Donc collectivement, on s'est associé pour essayer de comprendre comment fonctionnait la forêt, mais surtout comment elle allait s'adapter au changement climatique et, si possible, rassembler nos forces pour mettre au point des scénarios ou des modes de culture forestière, des parcours sylvicoles qui permettent d'atténuer l'effet du changement climatique. Faut jamais oublier que pour un forestier, planter un arbre, il le fait pas pour lui, il le fait pour ses petits-enfants. C'est-à-dire que nous, forestiers, nous, y compris les chercheurs en recherche forestière, on essaie de se projeter dans 50 ans, un siècle dans le futur. Donc ce que nous demande l'ONF, l'Office national des forestiers, comme tous les forestiers, demande à ce consortium de chercheurs spécialisés dans la forêt, que doit-on planter aujourd'hui pour qu'on puisse récolter dans 50 ans ou dans 100 ans? Et là, évidemment, on a du mal à leur répondre. Il y a plusieurs scénarios. Si les scénarios du GIEC sont justes, si la température en France augmente de 2 degrés, probablement qu'il y a assez d'individus chez les arbres d'aujourd'hui, chênes ou hêtres, pour s'adapter à ce climat. Donc les forêts françaises, la forêt de Fontainebleau, probablement existera encore. Mais ce sont des individus adaptés qui seront des hêtres et des chênes adaptés.
Oui, c'est-à-dire que les arbres vont aussi probablement se déplacer.
Alors ça, ce serait plutôt dans un scénario plus sombre et plus pessimiste. Si les températures passent à plus 3, plus 4, là, les hêtres, les chênes, même les individus adaptés dans ces populations-là, ne pourront pas survivre à ces températures. Donc là, on risque de voir la hêtraie française et la chênaie française se déplacer de 100 ou 200 km vers le nord et voir les oliviers remonter peut-être jusqu'à Lyon ou Paris. C'est vraiment les scénarios très pessimistes. Mais c'est envisageable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Labex Arbre conduit des expérimentations au Liban parce qu'en fait, certains collègues pensent que les températures et le climat du Liban aujourd'hui sera celui du sud de la France dans 50 ans.
Alors juste petite question concernant l'ONF, parce que j'imagine que des auditeurs doivent avoir cette question aussi dans l'oreille. On a ressenti un mal-être ces dernières années, des forestiers qui dénonçaient les coupes rases ou justement la façon de gérer la gestion des forêts en France. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on passe un cap?
Les techniciens forestiers de l'ONF sont partagés. Certains pensent qu'effectivement il faut modifier les parcours sylvicoles, il faut effectivement récolter ce qu'on appelle les rémanents, c'est-à-dire les branches, les brindilles, les cimes, et les exporter pour alimenter les usines de bioénergie. Et certains techniciens gestionnaires forestiers trouvent que c'est une hérésie, qu'on ne devrait pas le faire. Donc là, on conduit tout particulièrement des travaux sur cet aspect-là, et on essaye d'évaluer quel est l'impact de ce retrait des rémanents, c'est-à-dire faire sortir de la forêt tout ce qui est utilisable, mais qui restait autrefois sous forme de fagots recyclés par les champignons. On essaie de voir l'impact de ce retrait des rémanents sur la biodiversité des champignons dans plusieurs forêts françaises. Je dois vous avouer que l'impact est considérable. C'est-à-dire que si on retire ce qu'on appelle la matière organique du sol, les brindilles, les branches mortes, eh bien on voit disparaître tout un cortège de champignons, décomposeurs, les fossoyeurs de la forêt, qui évidemment, n'ayant plus de substrat, n'ayant plus de quoi se nourrir, vont disparaître. Donc l'impact est fort, mais les études étant conduites, on peut conseiller, on peut mettre au point des indicateurs qui permettront aux gestionnaires forestiers de le faire avec bon sens.
Bon, mais voilà, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a effectivement cet accompagnement pour les forêts françaises, même si vous nous disiez qu'elles se portent bien. Mais malgré tout, préservons-les, justement. Francis Martin, je reviens aux champignons. Alors, ces fameux champignons, parlons-en. Quels pactes ont été passés entre les arbres et les champignons? Parce que vous nous parliez des décomposeurs. Il y a les symbiotes, les décomposeurs et les parasites, le bon, la brute et le truand. Faites-nous rentrer dans l'univers des champignons.
Le bon, la butte et le truand, je pense que c'est une métaphore bien sûr, mais on distingue dans les forêts tempérées françaises au moins trois types de champignons. Les champignons qui vont se nourrir de la matière morte, ceux qu'on mentionnait à l'instant, on les appelle en langage scientifique les saprophytes, ceux qui mangent les plantes mortes, ou les saprotrophes, ceux qui mangent la matière morte. Leur rôle, il est fondamental. Ce sont des décomposeurs. Ils sont capables, c'est parmi les rares organismes sur notre planète, qui possèdent l'arsenal enzymatique, la machinerie, les nanomachines qui leur permettent de découper le bois. De découper en particulier la lignine. La lignine, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le biopolymère le plus abondant sur la planète. C'est le constituant essentiel du bois. Lignine et cellulose forment le bois. Et ces champignons ont la capacité de découper le bois. Les molécules de lignine. Donc, ils participent du recyclage de cette matière organique. Le bois tombe au sol, les branches tombent au sol, les feuilles mortes à l'automne. L'ensemble de cette matière organique va être décomposée en quelques semaines pour les feuilles, en quelques années pour le bois, des troncs abattus ou des branches mortes. Donc, ils ont un rôle considérable. C'est eux qui participent du recyclage du carbone et des nutriments en forêt. Et c'est eux qui vont créer l'humus et la litière des forêts. Et les arbres vont se nourrir de cet humus et de cette litière. Mais pour ce faire, ils ont besoin de travailler avec les bons, avec les champignons symbiotiques, ceux qui ont établi une alliance, une interaction, une communication à bénéfice mutuel entre les racines et le champignon. Et ces champignons qui sont à l'interface, ils jouent un rôle fondamental parce qu'ils sont à l'interface entre le sol et les nutriments du sol et de la matière organique, de la litière et l'arbre vivant. Et ils vont assurer, grâce à leur réseau de filaments microscopiques, l'absorption de l'azote, du phosphore, des micro-éléments, des éléments nutritifs indispensables à la croissance des arbres. Pour chaque mètre de racine, on a compté jusqu'à 1000 mètres, 1 kilomètre de filaments microscopiques. C'est une extension considérable du système racinaire. Et ces champignons, que j'appelle également parfois des mineurs, des prospecteurs, ils sont capables de pénétrer dans les anfractuosités du sol à la recherche de la moindre molécules de phosphate ou d'azote pour transporter ces éléments nutritifs vers l'interface symbiotique où le champignon s'est installé sur la racine et ces éléments nutritifs sont transférés à la plante et participent et favorisent sa nutrition. Alors vous allez me dire, c'est un travail considérable. Ils ont le rôle, ces champignons symbiotiques. Ils font un boulot de prospecteur. Quand ils trouvent des ressources minérales, ils jouent le rôle de mineur. En plus, ils se chargent du transport le long de leurs câbles qui relient le sol à la racine. Ils assurent le transport, ils assurent la livraison, ils transfèrent à la plante, dans un commerce qu'on pourrait quasiment appeler d'équitable, ces éléments nutritifs vers la racine. Heureusement, la plante va rétribuer ce travail. L'arbre va consacrer de 20 à 30% de ses sucres, sucres qui ont été photosynthétisés dans les parties aériennes par le processus de photosynthèse, transportés vers les racines, 20 à 30% de ces sucres vont être transférés vers le champignon. Donc certains disent que ça a un coût considérable. Un tiers de l'énergie de la plante va être consacré à ses partenaires fongiques. Mais le retour sur investissement est tellement considérable que la croissance des arbres se trouvera stimulée.
Alors c'est intéressant parce que vous nous expliquez aussi que donc tous les champignons n'ont pas le même comportement et que chaque arbre a ses champignons préférés.
Ah, c'est extraordinaire. Voilà, ça fait 35 ans que je travaille sur ces symbioses mycorhiziennes. Mycorhize, c'est-à-dire la symbiose entre champignons à racines. Mycorhize, ça veut dire mycèse, champignon, rhiza, racine. Un arbre adulte comme un chêne de 100 ou 150 ans, 200 ans, il va avoir près de 250 espèces de champignons associées. Alors quand je dis espèces, chanterelles, cèpes de Bordeaux, amanites tumouches peuvent tous être en interaction simultanément avec la racine d'un même arbre. On s'est interrogé, mais pourquoi un chêne doit-il contracter un mariage, une association avec 250 espèces de champignons différents? Plusieurs travaux nous montrent qu'en fait, chaque champignon pourrait bien être spécialisé. Nous aurions des spécialistes de l'absorption de l'azote, des spécialistes de l'absorption du phosphate, d'autres qui modifient la structure racinaire, d'autres qui protègent la racine des attaques des nématodes, des vers présents dans le sol ou des champignons pathogènes. Donc en fait, il y aurait ce qu'on appelle, nous autres écologues, une complémentarité fonctionnelle. Je vais être un peu anthropomorphique là. L'arbre s'associe à contracter un mariage, une association de longue durée avec tout un ensemble de champignons qui ont des fonctions complémentaires.
Mais dans ce mariage, certains manipulent les plantes.
Alors là, c'était une surprise. Quand j'ai commencé à travailler sur les symbioses mycorhiziennes, quand on discutait avec nos étudiants, quand on présentait nos travaux, on avait toujours la même photographie, le même dessin, un sapin qui serrait la main d'un cèpe. C'est-à-dire qu'on vendait la symbiose mycorhizienne comme un mariage. En fait, les travaux qu'on a réalisés ces dernières années au niveau moléculaire, grâce au séquençage du génome de l'arbre, du génome d'un certain nombre de champignons symbiotiques, l'analyse moléculaire des signaux, des gènes et des protéines qui étaient régulés, modifiés au cours de l'interaction, on s'est aperçu en fait que certains champignons étaient capables d'injecter dans la plante hôte des molécules pour prendre le contrôle de l'hôte. Donc en fait, je dis toujours maintenant, attention, c'est un mariage, mais dans ce mariage, le partenaire...
Il y a un dominant et un dominé.
Voilà, c'est ça, il y a le partenaire peut vous injecter une drogue éventuellement pour vous maîtriser, vous contrôler. On en était là il y a 2 ans. Et là, on vient de démontrer que, avec des collègues australiens et américains, que l'arbre lui-même injecte dans le champignon ce type de molécules et contrôle une partie du fonctionnement du champignon. Donc on a une magnifique, je m'emporte un peu là, mais on a un dialogue moléculaire établi entre la plante et le champignon qui est tout bonnement fascinant. Le champignon contrôle une partie du développement, du métabolisme et du fonctionnement de l'arbre, et l'arbre, en retour, contrôle le champignon. Donc on en est à ce stade des recherches actuelles au niveau moléculaire et c'est tout bonnement fascinant.
Alors on sent dans votre livre, Francis Martin, que certains de ces champignons recueillent chez vous une attention particulière. Il y a la manite et puis enfin, il y en a d'autres. Hein. Et il y a la truffe. Alors avant de parler de la truffe, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 le 23 décembre 2017. Une truffe trouvée sur le toit d'un hôtel parisien.
Qu'est-ce que ça sent ?
Une odeur à vous mettre l'eau à la bouche, celle d'un champignon qui vaut de l'or, une truffe sauvage. Depuis quelques semaines, ce spécimen est conservé et analysé au Muséum d'Histoire Naturelle. Une truffe 100% parisienne, une espèce rare mais comestible, Tuber brumalé de son petit nom.
C'est pas la truffe noire, la truffe du Périgord, mais elle pousse un peu dans les mêmes environnements. Mais là, on est sur une truffe de 25 grammes, donc c'est une bonne truffe. Hein. Clairement, on trouve les mêmes dans le sud-ouest. Hein. C'est une truffe en bonne santé, et peut-être pas complètement mûre, mais voilà, qui a pu se développer complètement.
Et elle a poussé à quelques mètres de la tour Eiffel, sur le toit terrasse d'un hôtel parisien amateur de verdure. C'est en creusant pour de nouvelles plantations qu'un jardinier chercheur a découvert la truffe.
On l'a trouvée donc sur cette toiture parce qu'il y a des charmes, donc cet arbre qui est à côté de moi. Et c'est un champignon qui vit en symbiose avec cet arbre. En milieu urbain, on a des microclimats très spéciaux, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. Et on a souvent 2 à 3 degrés de plus qu'à côté. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui a permis à cette truffe de pousser à cet endroit-là.
Francis Martin, les truffes, forcément, on tend l'oreille. On peut dire que c'est le champignon phare ou celui qui attire peut-être le plus d'attention du public. Souvent lié donc au destin des chênes, hein, le champignon et pas des moindres, donc c'est la truffe noire du Périgord, on pense à ça. Mais là, franchement, ce genre de découverte, c'est assez insolite. Et j'imagine que ça vous intéresse au plus haut point.
Oui, mais les truffes, comme les champignons mycorhiziens, dont la truffe, sont omniprésents. Ils sont partout. Aussitôt qu'il y a une plante, ou en tout cas aussitôt qu'il y a un arbre, on va avoir un cortège de champignons. On le mentionnait. Et la truffe est partie des champignons mycorhiziens assez fréquents. Alors après, il y a une cinquantaine d'espèces de truffes en Europe. Elles ne sont pas toutes nobles et d'intérêt gastronomique. Évidemment, on connaît la truffe noire du Périgord, la truffe noire de Bourgogne, dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie, la fameuse, la prestigieuse truffe blanche d'Alba. ces champignons-là sont présents sur les chênes, sur les noisetiers, dans beaucoup d'écosystèmes en France. Donc pourquoi pas sur les toits parisiens? Si on a planté l'arbre qu'il fallait, je crois que c'était un charme dans ce reportage là, sur les toits d'AgroParisTech à Paris, oui, c'est pas impossible.
Alors les truffiers ont compris comment favoriser les sous-sols, hein, grâce à vos études peut-être?
Alors c'est des travaux qui ont débuté il y a très longtemps, j'étais encore tout gamin je pense. Hein. C'était dans les années 70 qu'un chercheur de l'INRA, Gérard Chevalier, a mis au point en collaboration avec des collègues de l'université de Turin en Italie, ce protocole, il a joué le rôle d'entremetteur. Comment favoriser la mycorhisation, c'est-à-dire la colonisation du système racinaire par un champignon prestigieux, la truffe noire du Périgord. Et après plusieurs années de travaux, ils ont pu maîtriser le parcours, le protocole technique qui, avec un arbre sélectionné, avec un système racinaire bien développé, en mettant en contact d'une purée de mycélium de truffe, 90 à 99% des petites racines, les radicelles de la plante hôte, sont mycorhisées. Donc le processus est maintenant bien maîtrisé. Alors, il demande encore beaucoup d'attention, hein, mais il y a des entreprises, plusieurs entreprises en France sont capables de produire des noisetiers ou des chênes truffiers. Mais c'est que le début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a joué le rôle d'entremetteur, la symbiose s'est installée, l'arbre est content, l'arbre est en bonne santé, le champignon joue son rôle de pourvoyeur de nutriments. Au bout de 2 ou 3 ans, on va quitter les serres où les arbres ont été élevés pour les transplanter dans les conditions du verger à truffes, dans la truffière. Et là, on n'a plus de contrôle, c'est-à-dire que le scientifique, malgré son intelligence, malgré les travaux qui sont conduits, ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi la truffe va se maintenir sur le système racinaire, pourquoi au bout de 4, 6, 8 ans, certaines de ces racines mycorhizées vont déclencher le processus de formation des truffettes qui aboutira aux truffes. Pour l'instant, on n'a pas maîtrisé ce protocole. Donc ça veut dire qu'une truffière sur 2 ne produira jamais de truffes.
Anecdote que vous nous livrez dans votre livre, Francis Martin, sur cette truffe. Hein, ce sont les études sur les chauves-souris qui ont fait avancer la connaissance.
Oui. Là, c'est là où on voit que la science avance parfois de façon...
Le hasard
fait toujours bien les choses. Donc là, il se trouve qu'un spéléologue, à la fois spéléologue et mycologue amateur, parcourait les galeries dans le centre de la France, parcourait les galeries qui autrefois servaient à la culture du champignon de Paris, les tuffeaux, qui se situent à peu près à 10 ou 15 mètres sous le sol. Et là, en marchant sur le sol, que trouve-t-il? Des truffes séchées. Comment ont-elles pu venir ici? En fait, en levant les yeux, il s'aperçut qu'il y avait des racines qui pendaient du sol. Et en fait, c'est les arbres qui croissaient 10, 15 mètres au-dessus de lui, qui avaient envoyé leurs racines, profitant des anfractuosités, jusqu'à ces galeries. L'humidité était adéquate, les racines se sont développées. Sur ces racines, il y avait des champignons mycorhiziens. Et parmi les champignons mycorhiziens, la truffe noire de Bourgogne, Tuberacinatum. Et une fois que les truffettes étaient formées, que les truffes se formaient, elles tombaient sur le sol. Mais ça a permis à un collègue du laboratoire de se rendre sur place, de prélever le matériel et de mieux étudier les interactions entre la racine, le champignon mycorhizien qui est la truffe, et puis ce moment extrêmement transitoire et bref où la truffette se forme et la truffe va pouvoir croître et pousser.
Donc il y a ces champignons qui nous émerveillent ou qui nous font même saliver. Et puis il y a aussi les champignons fossoyeurs. Écoutez ce reportage diffusé sur France 3 Occitanie le 12 août 2018. Tout se passe à Saint-Gaudens.
Tous les matins, en fait, il y avait de la poussière. Il y avait une espèce de petite poussière brunâtre, hein, du coup. Donc on nettoyait, on trouvait ça bizarre.
La famille découvre alors avec effroi ce qui se cache sous ses pieds, la mérule. Un champignon au filament blanc qui s'attaque et détruit essentiellement le bois et qui ne cesse de proliférer.
Je ne pensais pas que voir le champignon blanc comme ça veut dire qu'il est vivant. On le voit là d'ailleurs.
Oh la vache, il y en a partout. Il y en a partout.
Une situation loin d'être un cas isolé.
Il n'y a aucun, je dis bien aucun département en France qui n'est pas touché par la mérule. À partir du moment où on a un foyer déclaré ou non de mérule dans un endroit, il y a un risque sanitaire évident pour le voisinage et les villages avoisinants.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Cette mérule, Francis Martin, véritable catastrophe qui envahit les régions de France. Dans l'ouest de la France, vous précisez que 50% des communes sont touchées.
Oui, la mérule est un champignon fascinant. Pour un mycologue, pour un écologue, c'est champignon fossoyeur en fait. C'est un champignon qui dégrade le bois. Son origine est probablement située dans les plateaux de l'Himalaya, où ce champignon colonise, dégrade, décompose des conifères, des sapins de l'Himalaya. On essaie de retracer aujourd'hui, en particulier des collègues norvégiens, c'est comment ce champignon qui vivait à 2500 mètres d'altitude et colonisait les arbres abattus, les conifères abattus, comment s'est-il retrouvé dans les maisons bretonnes ou les maisons en Europe, un peu partout en Europe. On pense qu'il a utilisé la route de la soie. C'est-à-dire qu'en fait, ce champignon a dû coloniser des structures en bois qui ont été utilisées pour la construction des bateaux, coloniser les ports de l'Inde, avec lesquels l'Europe avait des échanges commerciaux. Comme il y a beaucoup de mouvements de champignons aujourd'hui, ça existait déjà au XVIIe siècle. Ce champignon a colonisé les bateaux de marine et puis est arrivé en Europe, coloniser les maisons dans les ports, coloniser les charpentes. Et il a trouvé dans les charpentes des constructions humaines un écosystème qui lui convenait parfaitement. Pas trop de compétition. Il associe ses filaments pour tresser des câbles. Des câbles qui ont une puissance remarquable puisqu'ils peuvent franchir plusieurs dizaines de mètres. Donc dans une maison, même si vous avez une zone où il n'y a pas de bois, du béton, il sera capable de traverser cette région-là, d'emporter des aliments nutritifs, pour aller rejoindre une autre source de bois pour se nourrir. Donc il colonise très vite les charpentes, des vieilles maisons, et maintenant même des maisons plus modernes, parce que les conditions d'isolation sont tellement bonnes que l'humidité commence à réapparaître dans les greniers, et la mérule y trouve un écosystème qui lui est parfaitement adapté. Donc elle se propage dans beaucoup de régions de l'Ouest de la France, on commence même à la voir dans l'Est de la France.
Quelle solution pour l'éradiquer ?
Je dirais aucune, à part brûler la maison, malheureusement.
On perd tout.
Je suis un peu pessimiste là. Quand la mérule colonise des escaliers, en bois, on peut évacuer les escaliers, évacuer les parois qui sont colonisées. Il y a très peu de traitements pour supprimer les champignons, pour tuer les champignons. Donc en fait, on a le sulfate de cuivre, bien la bouillie bordelaise est utilisée pour ça, mais on a très peu de produits efficaces qui seraient spécifiques à la mérule. Donc moi, je suis assez pessimiste. Je préfère que la mérule n'envahisse pas ma maison.
Bon, on va retrouver un peu d'optimisme dans ce monde quand même, avec le choix musical de notre invité de la seconde partie, Arthur Bordalo, street artiste engagé pour l'environnement. Il a choisi de nous faire écouter aujourd'hui Moulinex, Take My Pain Away. C'était Moulinex, Take My Pain Away, le choix musical de Arthur Bordalo que nous allons retrouver dans un instant, dans quelques minutes. Soyez encore un petit peu patients dans cette émission de Cause à Effet qui poursuit justement son thème aujourd'hui sur France Culture, consacré à la face cachée des forêts, le monde invisible des champignons qui s'active sous nos pieds. Et c'est Francis Martin, directeur de recherche à l'INRA Nancy, auteur du livre Sous la forêt, paru chez Humaine Science, qui nous y entraîne. Dernière question, Francis Martin, avec vous, on pourrait y passer des heures, mais on reverra bien sûr sur votre livre, Sous la forêt. Les recherches menées dans votre laboratoire sur cette symbiose entre les arbres et les champignons peuvent-elles donner aux chercheurs des clés afin d'atténuer les effets catastrophiques du changement global ?
Oui, bien entendu, favoriser l'installation de la symbiose, favoriser les conditions environnementales qui permettent à un arbre d'avoir un cortège de champignons abondants, complémentaires, c'est une assurance pour cet arbre de survie. Mais on peut peut-être aller plus loin. Nos travaux montrent que certains de ces champignons sont particulièrement bien adaptés à la sécheresse. Et on a pu noter que pendant les périodes estivales, certaines espèces de champignons étaient particulièrement abondantes. Donc on est en train de sélectionner ces champignons qui ont la capacité de résister à la sécheresse de manière à équiper les arbres de ces associés qui pourraient bien les aider à améliorer leur croissance dans les conditions de sécheresse prolongée ou extrême qu'on va connaître, c'est une quasi-certitude, dans les 50 prochaines années. Donc on a déjà un certain nombre d'espèces de champignons qui sont d'excellents candidats. Et on a pu démontrer avec nos collègues suisses d'un laboratoire forestier de Zurich qu'un de ces champignons, qui a un nom très barbare, Senococcum geophyllum, mais qui forme des racines noirâtres, très riches en mélanine, et en fait cette mélanine protège les racines de la dessiccation, c'est-à-dire de la sécheresse. Donc en inoculant les arbres avec ce champignon, on pourrait éventuellement générer des couples particulièrement bien adaptés à la sécheresse.
Eh bien, nous suivrons vos travaux, Francis Martin, avec passion. Et je renvoie nos auditeurs à votre livre « Sous la forêt, pour survivre, il faut des alliés ». Un livre paru chez Humaine Science où vous nous faites découvrir ce monde invisible, franchement insoupçonné, avec beaucoup de passion.
Merci.
Et restez avec nous, bien sûr, parce que dans un instant, c'est la suite de notre programme. Et on commence par la revue d'Info Environnement. Et parmi les nouvelles glanées sur le front de l'environnement, cette semaine, quelques infos internationales, non sans rapport d'ailleurs avec notre invité culture Arthur Bordalo, que l'on va retrouver dans quelques minutes. Au Japon, Kamikatsu est la ville pionnière du zéro déchet. Cette commune de 1600 habitants s'est lancée un défi en 2003, plus aucun déchet d'ici à 2020, l'année des JO d'été à Tokyo. En 2018, 80% des déchets étaient déjà recyclés. Les habitants lavent, trient, répartissent les déchets dans 45 catégories différentes à la déchetterie, et l'opération se solde déjà par des retombées économiques, hein, moins d'impôts, la création de nouvelles activités, par un regain de solidarité également, une opération supervisée par l'ONG Zero Waste Japan, et c'est à lire sur le site Info Durable. En Afrique du Sud, c'est une unité de femmes qui lutte contre les braconniers. Elles se font appeler les Black Mamba. Elles sont 36 à patrouiller dans une réserve privée dans le seul but de préserver les animaux sauvages, lions, rhinocéros, éléphants notamment. Elles sont venues de communautés voisines, elles agissent sans armes. Et leur technique de recueil d'indices et de traces semble avoir déjà fait reculer les exactions. C'est une belle histoire à découvrir dans l'article de Léa Gage sur le site reporter.fr. Et enfin, exceptionnellement cette semaine, la palme du moins et celle du plus reviennent au même composant, le fameux E171, un additif alimentaire cancérigène probable qui a refait parler de lui et qui a suscité quelques revirements.
L'additif E171, ce colorant potentiellement cancérogène qu'on trouve dans les bonbons, il devait être suspendu, mais Bruno Le Maire retardait la signature de l'arrêté. Finalement, le ministre va le valider, ce papier, d'ici 3 mois. Il a convoqué les associations à Bercy pour le leur dire tout à l'heure, à la grande et plutôt bonne surprise de Stéphane Kharkov d'Agir pour l'environnement avec Adrien Toffolet.
Aujourd'hui, un ministre qui revient sur ses propos et qui nous annonce que sous 3 mois, l'interdiction aura bien lieu. C'est trop long, c'est jamais satisfaisant dans le sens où les consommateurs continuent à ingérer à leur insu du dioxyde de titane. Ce qui l'a fait changer d'avis, je pense que c'est la mobilisation citoyenne, c'est la levée de bouclier d'un certain nombre de parlementaires qui avaient voté dans le cadre de la loi alimentation une interdiction du dioxyde de titane. Maintenant, c'est un changement de posture et une prise en compte de la santé des consommateurs.
Et pour réagir à cette actualité, avec nous par téléphone, Anne-Laure Denant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en pharmacie, spécialiste de la nutrition et auteur du livre « Le nouveau guide des additifs », livre paru aux éditions Thierry Soucard. Concrètement, le E171, dioxyde de titane, de quoi parle-t-on et où le trouve-t-on ?
Le dioxyde de titane, c'est un colorant blanc et un opacifiant. Il va permettre en fait de colorer différentes friandises. On le trouve vraiment la plupart du temps dans les confiseries, les glaces, les gâteaux. On peut le retrouver également dans quelques plats préparés, mais c'est vrai que vraiment la plupart du temps, on le retrouve plutôt dans toutes ces confiseries. Et bon, ben voilà, nos enfants sont les premières victimes quand même. Son rôle, c'est uniquement de colorer. Donc, je pense qu'on peut complètement s'en passer. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle, en fait, justement, le fait que la décision donc,
de Bruno Le Maire, finalement, parce qu'on a eu peur quand même.
Oui, on a eu peur quand même, voilà. Parce que bon, on a quand même des études qui dernièrement menées par l'INRA, donc l'INRA, donc c'est quand même un organisme scientifique de renommée, qui a montré que ingéré par les rats, ce fameux dioxyde de titane donc que l'on retrouve dans notre alimentation va entraîner toute une série justement de perturbations donc qui vont perturber leur système immunitaire et en plus il va provoquer une inflammation du côlon en fait voilà et favoriser des lésions précancéreuses au niveau du côlon. Bon, ça a été détecté chez le rat. Bon, il y a quand même des études complémentaires qui sont en cours pour voir ce que ça pourrait éventuellement faire chez l'homme, mais je pense que le principe de précaution s'impose quand même par rapport à ces dernières études qui datent de 2017.
Et en sachant que les doses injectées aux rats n'étaient pas massives, c'est-à-dire qu'on avait respecté un dosage tout à fait normal pour une absorption quotidienne humaine.
Complètement. C'est vraiment ce qu'on peut, nous, en consommateurs, trouver dans notre alimentation et manger au quotidien, puisque moi j'incite justement dans les 3 mois qui viennent, puisque l'interdiction ne sera effective que dans quelques mois, à tous les consommateurs bien regarder la liste des ingrédients. Et puis c'est pas parce que vous allez consommer donc une confiserie de temps en temps que demain vous allez avoir le cancer, mais par contre pour les confiseries que vos enfants consomment régulièrement, essayez de regarder la liste des ingrédients et justement choisissez une de ces confiseries qui ne contiennent pas ce 171. Surtout qu'il y a quand même différents confiseurs qui ont justement écarté le dioxyde de titane de leur gamme. Donc on a le choix en tant que consommateur.
Et Anne-Laure Denant, par contre, près de 4000 médicaments contiennent du E171.
Effectivement, le E171, on ne le retrouve pas que dans l'alimentation, on va le retrouver dans des compléments alimentaires. Mais effectivement, par contre, dans les médicaments...
Oui, des antalgiques...
Exactement. Ça pose problème, oui.
Donc, aux consommateurs, aux citoyens, de rester vigilants, à de l'ordonnant, et notamment vis-à-vis de d'autres additifs que l'on retrouve
exactement
dans votre livre, Le Nouveau Guide des Additifs, d'autres additifs connus pour être cancérigènes, classés en noir dans votre livre, et qui restent dans nos consommations. Donc, aux citoyens, aux consommateurs, de rester vigilants. Merci, et bien sûr, à lire le dossier sur lemonde.fr. Seconde partie de notre magazine De Cause à Effet sur France Culture avec une actualité art et environnement, le street art au service de la planète. Actuellement à Paris, l'un des créateurs de l'art urbain international engagé contre les ravages de notre société de consommation et qui expose du 26 janvier au 2 mars des œuvres dans le cadre d'une exposition manifeste intitulée Accord de Paris. C'est à la Matgott Galerie dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour Arthur Bordalou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. À vos côtés, l'interprète Paola Martins. Votre nom d'artiste, tout d'abord, est Bordalo Segundo, en hommage à votre grand-père.
Si. Mon nom est Arthur Bordalo.
Je m'appelle Arthur Bordalo.
Et mon nom d'artiste Bordalo Segundo est un hommage.
Mon nom d'artiste Bordalo Segundo, c'est un
Bordalo
hommage
Real Bordalo
à mon grand-père Real Bordalo.
Il était peintre.
Si, o meu avô foi uma grande influência.
Oui, mon grand-père a été une grande influence quand j'étais plus jeune.
Durante os fins de semana, nas férias.
Pendant les week-ends, les vacances.
Eu costumava ir para o estúdio dele e
j'allais
pintar,
à son studio, je le regardais peindre, j'apprenais quelques techniques.
Et
j'ai pensé qu'il fallait donner une continuité à son nom et c'est pour cela que j'ai pris ce nom.
Arthur Bordalo, pourquoi avoir choisi Paris pour lancer votre exposition manifeste ?
Paris est une ville très intéressante.
Paris est une ville très intéressante.
Un public très riche culturellement.
Avec un public très riche du point de vue culturel.
Et
c'est un espace où je n'avais pas encore fait certaines choses. J'ai déjà fait deux œuvres éphémères de rue, mais elles n'existent plus.
Mais
j'ai trouvé qu'il fallait que je fasse une grande exposition pour transmettre des idées. Plus qu'un travail artistique, je voudrais que ce soit des exemples pour les générations les plus jeunes.
Vous êtes un artiste engagé, alors dites-nous concrètement depuis combien de temps ? C'est-à-dire qu'est-ce qui a déclenché cet engagement, le déclic ?
En fait, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la nature, les animaux.
Et dès
que j'ai commencé à travailler dans la rue, je me suis dit que puisque j'ai une visibilité, j'ai également une responsabilité pour transmettre plus qu'une jolie image, mais faire en sorte que la société puisse changer et avoir un autre regard. Parce que je pense que nous sommes en train de détruire le monde dans lequel nous vivons. Avec beaucoup de choses qui ne sont probablement pas nécessaires. Et moi, avec mon travail, j'aime parler de ces choses-là.
Mais justement, Arthur Bordalo, la rue est votre lieu d'exposition. Expliquez-nous votre mode de création et de narration.
C'est un processus assez simple. D'abord, il y a la collecte des matériaux. Des déchets, donc, et les pièces sont transformées en panneaux. On peut les appeler la matière première, bien qu'il y en a qui les appellent des déchets.
Et
là, je coupe, je visse, je plie, j'ajoute des choses jusqu'à ce que je crée une forme. Et le plus souvent, cette forme est un animal. Et pourquoi un animal, vous allez me demander juste après.
Allez-y,
bien sûr. Parce que les animaux sont probablement la façon de représenter la nature
qui nous est mais proche
qui nous est la plus proche par rapport à leurs expressions, à leur forme.
Ils sont muito idênticos a nós,
nós somos. Ils nous ressemblent beaucoup les animaux.
Et então fazendo esta imagem das vítimas dos nossos
actos. Avec cette image de ces animaux qui sont les victimes de nos actes.
E deste mesmo material que eu utilizo. Et
avec ce matériau que j'utilise.
Acaba por ser utilizar aquilo que mata.
En fait, j'utilise ce qui tue pour construire un portrait de la victime.
Et
l'idée n'est pas de construire quelque chose de joli avec les déchets. Ça, c'est un premier pas pour que les gens puissent s'arrêter et regarder.
Et
là, pour qu'ils puissent interpréter tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est important.
Mais même si le côté joli, comme vous dites, le côté artistique n'est peut-être pas l'essentiel dans votre message, il est là. Et il est étonnant, ce sont vraiment des œuvres formidables, gigantesques pour beaucoup, en 3D, qui prennent place dans ces rues, sur des bâtiments. Enfin, vous avez cette façon de conquérir l'espace au quotidien et d'aller chercher un public qui n'est pas un public qui vient pour vous voir, mais qui est un public qui va être interpellé par vos créations, qui devient presque captif, mais qui est de passage. Est-ce que vous avez des retours, justement, de ces réactions-là ? Ce public, il vous dit quoi, en général ?
Lorsqu'on travaille dans la rue, il y a toujours une interaction avec le public. Ne serait-ce que parce que le processus de création lui-même est pratiquement une performance. Au départ, on crée une grande confusion avec tous les éléments. Ça ne ressemble à rien.
Quand on commence à découper les pièces, à les visser,
on a l'impression de faire encore plus de confusion.
Mais rapidement,
cela se transforme en quelque chose que les gens commencent à comprendre. Les dernières minutes, lorsque la pièce est posée sur le mur
et peinte,
là, Les gens s'arrêtent et regardent et ils voient que c'est quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'ils croyaient au départ. Parce que probablement ils pensaient que j'étais l'homme des poubelles.
Oui, parce qu'il faut préciser quand même, Arthur Bordalot, c'est vous-même qui allez recueillir les détritus, enfin les déchets, soyons concrets, ce sont aussi des encombrants, enfin de toutes ces matières-là qui sont le symbole de la mondialisation et comme vous le disiez, redonner vie avec ce qui tue justement l'environnement. Mais vous y allez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parlez de 42 tonnes de déchets collectés et réutilisés?
Oui, c'est une estimation, mais... C'est davantage, certainement.
Et
pour ce qui est de la collecte des matériaux, c'est moi souvent qui le fais. Je peux trouver des formes intéressantes pour construire quelque chose. Mais souvent, le type de matériaux que j'utilise se répète.
Je dirais qu'on
peut avoir une liste aussi et du coup quelqu'un peut aller chercher ce type de matériaux pour moi.
Arthur Bordalot, ces matériaux-là, quand vous allez les chercher, est-ce que vous savez déjà ce dont vous avez besoin, donc vous avez conçu finalement l'œuvre qui va naître, ou est-ce que vous vous laissez aussi guider par la surprise de ce que vous trouvez dans les rues ?
Alors il y a les deux cas. Le cas où je sais que j'ai besoin de certaines choses, donc je vais à leur recherche spécifiquement.
Par exemple,
un vieux lampadaire ou un casque. Je sais que je peux faire un œil géant avec ça.
Mais
des parties de pare-choc, c'est des choses un peu plus au hasard. On peut les découper jusqu'à ce que l'on puisse en tirer quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que c'est un processus très organique.
Donc cette exposition que vous nous proposez à Paris du 26 janvier au 2 mars à la galerie Matgott, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait comme choix ? Parce qu'on sent aussi que les villes vous inspirent et que chaque ville vous inspire différemment parce que chaque ville ou chaque pays est différent et vous y trouvez, vous, une singularité.
Oui, les espaces décadents m'attirent beaucoup. Et dans cette exposition, c'est un partenariat avec la galerie Matgott.
Mais
j'ai trouvé que c'était intéressant de sortir aussi de la galerie pour trouver un espace un peu plus brut.
Et finalement,
c'est un espace qui n'est pas encore tout à fait terminé. Les travaux viennent de s'achever. Et le plus ironique, c'est que probablement ça va devenir un supermarché.
Je trouve
que c'est un espace parfait pour faire une exposition telle que celle-ci.
Alors, une trentaine de sculptures monumentales d'animaux en voie d'extinction, c'est ce qu'on pourra voir quand même, c'est ce choix.
Ce ne sont pas tous des animaux en voie d'extinction, c'est à peu près 30 animaux, effectivement.
Ce message pour les jeunes, vous allez le délivrer dans ce lieu, donc à la Matgott Gallery, parce qu'il y aura notamment des visites de scolaires, je crois. Les enfants iront à votre rencontre?
Je ne serai pas là tout le temps,
Mais les enfants
iront à la rencontre de mon travail, quoi qu'il en soit. Il est intéressant de voir un travail artistique qui n'est pas uniquement destiné à une élite,
mais
qui peut être pour tout public,
sans que cela soit
un travail commercial ou populaire.
Comment est-ce que vous regardez-vous cette vague citoyenne qui, depuis la rentrée, depuis septembre 2018, a donné de la voix en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, pour réclamer justement un changement face au réchauffement climatique, face à la planète en souffrance, mise à mal par l'homme? Est-ce que vous y participer au-delà de votre art? Est-ce que vous associez à des personnalités, des journalistes, des artistes, d'autres personnes de cette société civile, quelle qu'elle soit, votre regard, et puis comment est-ce que vous y prenez part en dehors de votre art?
Je crois qu'au travers de mon art, j'ai la façon la plus forte de participer, à mon avis. Bien sûr, si j'ai l'occasion de me joindre à d'autres personnalités dans des projets spécifiques et apporter ma voix à des projets importants, bien sûr, je suis disponible pour cela. Mais je crois que l'art est un moyen de communication très fort. Et pour les jeunes, il est plus facile de montrer une œuvre d'art qui les appelle.
Do que, por exemplo, a publicidade tradicional,
qu'une publicité traditionnelle que on finit par ne plus voir.
Et le Portugal, alors, votre pays, vous semble particulièrement impliqué ou alerté sur ces enjeux du réchauffement climatique et la planète en devenir ?
Je crois que d'une façon générale, en Europe, les gens sont alertés. Ce qui ne veut pas dire que les gens se préoccupent.
Ou qu'on
fasse quelque chose pour changer cette situation.
Je
crois qu'au plan individuel, au-delà du plan individuel, il y a une grande responsabilité des grandes entreprises également. Parce que, par exemple, une grande marque de vêtements peut nous dire qu'elle fait du recyclage, qu'elle dépense moins d'eau,
mais
continue à essayer de nous vendre à l'excès sa nouvelle collection qui change tous les trois mois.
As pessoas têm um papel muito
c'est pour ça que les gens ont un rôle très important.
Mas as grandes corporações
les grandes sociétés sont celles qui dominent malheureusement le monde.
Ce sont vos coups de gueule du moment?
Estou bastante preocupado com os caminhos políticos.
Suis assez préoccupé par les voies que la politique mondiale suit ces 5 ou 10 dernières années.
Porque parece-me que de forma de mão dada
parce qu'il me semble que, à côté de l'environnement, il y a la partie sociale. Nous sommes des êtres humains.
Et
lorsque nous voyons qu'il n'y a pas de respect envers les gens, difficilement il y aura un respect par rapport à l'environnement.
Mais
malgré cela, c'est une tendance récente. Je ne comprends pas.
Mas espero que tenha sido apenas erro.
C'est une tendance actuelle. J'espère que c'est une erreur que l'on réussira bientôt à retourner.
Donc vous voulez parler de la montée des populismes et du rejet des migrants, c'est ça?
Sim, realmente.
Oui, tout à fait. C'est une des questions
que mais m'incomoda,
qui me gêne le plus.
Parece-me que a economia não é tudo.
Parce que l'économie n'est pas tout ce qui existe.
Et que o desrespeito pelas pessoas singulares.
Et le manque de respect envers les individus, c'est quelque chose qui remonte et qui appartient au Moyen Âge.
Sim, e acho que se seguíssemos este caminho, voltávamos a viver
et
nas
si
cavernes.
Et si on suit ce chemin-là, on revient aux cavernes et on commence à faire du feu avec des silex.
Por isso, respeito pelos individus.
Donc, il faut respecter l'individu, respecter la nature, et c'est là le chemin, c'est cela la voie.
Merci Arturo Bordalo, merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à votre exposition manifeste Accord de Paris, exposition de votre street art engagé. Et ça se passe du 26 janvier au 2 mars 2019 à la galerie Matgott dans le 13e arrondissement de Paris.
Merci.
Informations, bien sûr, tout à retrouver, bibliographie, les liens, revues de web environnement, les plus, les moins de la semaine, sur le site de l'émission franceculture.fr à la rubrique de cause à effet. Téléchargez l'émission, la réécoutez, tout est à votre disposition et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, un monde sans pesticides sera notre sujet de réflexion et nous serons notamment avec François Veillerette. Et dans un instant, c'est la suite de vos programmes sur France Culture. Restez bien à l'écoute. Être et savoir vous attend avec Louise Touré.